Europe 1, 5h, 7h, Théo Manval.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui remonte le temps. Dans quelques minutes, Fabrice Dalméda va nous raconter l'histoire du Comité international olympique, alors que le CIO siège aujourd'hui pour attribuer les JO d'hiver 2026. Et puis à 6h20, je reçois Alain Sirot, notre spécialiste des questions spatiales. La NASA veut retourner sur la Lune d'ici 2024. Alors est-ce que c'est crédible ou bien est-ce que c'est de l'esbrouf de Donald Trump? Alain Sirot, à son avis, on lui posera la question.
Merci d'écouter Europe 1 ce lundi 24 juin. Et très bon réveil, il est 6h. 5h, 7h, Théo Manval.
6h, le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
À la une.
Jusqu'au bout de la prolongation, les footballeuses françaises ont arraché leur qualification pour les quarts de finale du Mondial en battant le Brésil 2-1. C'est la une de quasiment tous vos journaux. Ce matin, la canicule s'installe en France. Pour la semaine, le gouvernement et la fédération du BTP appellent à la vigilance. Le projet de réforme sur la bioéthique dévoilé hier par nos confrères du JDD. La ministre de la Santé veut notamment lever le voile sur la filiation pour les enfants nés de la PMA.
Europe 1.
L'aventure continue donc pour les Bleus. Les Françaises ont fini par se qualifier hier soir face au Brésil pour les quarts de finale. Victoire 2-1 au terme de la prolongation. Des buts signés Valérie Gauvin et Amandine Henry. Quatrième victoire en 4 matchs donc. Une rencontre plus hésitante sur le fil mais avec des supporters toujours aussi mobilisés. Simon Rubin.
Il est 23h38 hier soir. Les Bleus sont au centre du terrain en communion avec le public. 24 000 personnes restées jusqu'au bout de la nuit pour célébrer une victoire folle aux confins de l'angoisse. Et à la sortie du stade, on relâche la pression. Une fanfare donne le rythme. Les supporters dansent, chantent. Scène de bal populaire joyeuse. Après la tension du match et cette prolongation qui semblait ne pas vouloir finir, on souffle et on savoure.
On souffle beaucoup même, parce que c'était un match super dur au niveau de l'équipe de France. On a souffert, c'était très très dur.
C'est la première fois que je viens, alors
c'est formidable.
J'étais dedans, hein.
Ouais, c'est ça, on recrache tout le stress du match, on en profite en espérant que ça continue jusqu'à loin dans la compétition.
Elles vont y arriver, on y croit, on est derrière elle et on va la gagner cette coupe.
Et les supporters ont eu raison de savourer parce que vendredi à Paris, dans la chaleur caniculaire, les Françaises affronteront probablement les États-Unis favorites de la compétition. Un autre très grand moment d'angoisse à prévoir. Le Havre, Simon Rubin, Europe 1.
Et le mondial de foot féminin, on y revient évidemment avec Jérôme Lacroix dans le journal des sports d'ici quelques minutes.
La semaine qui arrive s'annonce bouillante, Céline, avec des températures caniculaires.
Oui, jusqu'à 40 degrés à Paris, Lyon au milieu de semaine. Le mercure va commencer à monter dès aujourd'hui. Il fait déjà une vingtaine de degrés en région parisienne, mais aussi dans le Tarn. Si vous devez prendre les transports en commun, n'oubliez pas évidemment de partir avec de l'eau ou un brumisateur. Sur les chantiers parisiens notamment, on se prépare à une semaine d'enfer. Reportage avec les ouvriers qui refont les trottoirs et qui, justement, ont débuté leur journée plus tôt. Justin Morin.
Ils sont 5 à se relayer pour étaler au sol le goudron noir encore fumant. Agenouillé à même le trottoir, c'est au tour d'Hugo.
C'est trop physique.
Philippe lui ramène régulièrement des seaux remplis de goudron. Il craint la canicule qui va complexifier un peu plus leur mission.
L'asphalte, il est chaud, il a 200 degrés, donc ça va être pire. C'est comme ça, hein. On va s'adapter, on va commencer plus tôt. Et si on voit qu'il fait trop chaud, ben on arrête, on se donne rendez-vous au café. Hein.
Son patron plaisante moins, son équipe est tenue par des délais. Pour Louis, il n'y a pas 36 solutions.
On est très matinal en fait. On commence à 4h30 du matin, vers midi, 1h, on rentre. Il n'y a pas de solution miracle. Ouais. On s'hydrate, on se mouille un petit peu, on arrête, on fait une pause, on boit, on se rafraîchit. Quand ça va pas, on arrête. Hein.
Alors j'ai quand même rencontré un ouvrier à contre-courant.
Bah, je suis content.
Fernando, cette chaleur, ça lui rappelle son pays, le Portugal.
Le conseil que moi je donne, il faut boire beaucoup de l'eau, surtout pas d'alcool. Cigarettes aussi, il faut éviter parce que ça fait chauffer aussi.
Il se limitera à 5 cigarettes dans la journée au lieu d'un paquet. Son collègue, lui, préfère prévoir plusieurs t-shirts de rechange. À chacun sa technique pour rester au frais.
Reportage est signé Justin Morin pour Europe 1. Le plan canicule a donc été activé à Paris et dans ses départements limitrophes avec un numéro vert, le 0800 06 66 66. 0800 06 66 66. Vous pourrez y obtenir des recommandations sur la conduite à tenir. Soyez évidemment vigilants si vous avez un petits bébés. Attention aussi aux personnes âgées. Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Marseille. Dîner privé en compagnie d'acteurs locaux. Le chef de l'État a fait le déplacement pour la clôture du sommet méditerranéen des deux rives. Il doit assister à la mi-journée à cette réunion internationale en compagnie de 10 autres pays. Jean-Luc Mélenchon participe aussi à ce sommet. Le patron de la France Insoumise, qui était à Vincennes hier pour l'Assemblée représentative de son parti. Premier grand rendez-vous depuis la défaite aux européennes. Il a réaffirmé à ceux qui voulaient l'évincer que son rôle était consubstantiel au mouvement.
Le JDD a dévoilé hier le texte sur la bioéthique qui sera présenté le 26 juillet prochain.
Oui, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a notamment indiqué qu'elle voulait lever le voile sur la filiation pour les enfants nés grâce à un donneur. Les explications de Laure d'Autriche.
Deux filiations existent aujourd'hui. La filiation biologique, l'adoption, et ce projet de loi prévoit de créer une troisième voie qui se ferait, selon les termes employés dans le texte, par déclaration de volonté. Les femmes, une femme seule ou un couple de femmes, iront devant le notaire pour mettre par écrit qu'elles font appel à un donneur et qu'elles s'engagent à devenir les deux parents de cet enfant à naître. C'est cet engagement écrit qui fonderait la filiation. Cela signifie que l'enfant saura qu'il est né d'un don de sperme. L'enfant pourra accéder à des données concernant son donneur, son âge par exemple, et il pourra avoir accès à son identité si le donneur a dit oui. Ce qui reste à définir, c'est si on demandera au donneur d'accepter de donner son identité au moment du don ou plus tard, au moment des 18 ans de l'enfant. Enfin, un autre point important du texte, c'est la congélation des ovocytes pour les femmes qui voudraient avoir un enfant autour de 40 ans et plus, sans avoir à se préoccuper de l'horloge biologique. Un décret est prévu pour autoriser la congélation d'ovocytes pour les femmes qui ont entre 30 ans et 37 ans.
Laure d'Autriche pour Europe 1. C'est le nouveau rendez-vous judiciaire pour le cas Vincent Lambert. Il y a un mois, la Cour d'appel de Paris avait ordonné la reprise des traitements pour maintenir en vie ce patient tétraplégique depuis 10 ans. La Cour de cassation examine donc une nouvelle fois une question juridique. La Cour d'appel pouvait-elle ordonner donc la reprise des soins? Et puis c'est une première. Deux gorilles qui sont nées au zoo de Beauval vont retrouver leur milieu naturel dans le parc national des plateaux Batéké. C'est au Gabon. Un enjeu de taille pour cette espèce en danger d'extinction. Les deux gorilles femelles, âgées de 9 et 12 ans, vont partir ce matin en avion avec 5 membres du zoo de Beauval. Claudia Bertram.
Dans l'enclos Quimba, une gorille plutôt petite et trapue est très joueuse. Sa copine Mayombe, grande et gracieuse, elle est plus solitaire. Ces deux gorilles ont été choisies pour leur génétique, mais aussi pour leur caractère. Delphine Leroux est chef animalière adjointe du parc.
Il y en a une qui est plutôt une warrior. Elle a peur de rien, elle est combative, elle est toujours très joyeuse. L'autre est une femelle plus posée. Plus réfléchie, plus discrète. C'est bien, ça compense.
Au zoo, les deux gorilles ont été préparés pendant plusieurs semaines à leur nouvelle vie au Gabon. De nouveaux aliments plus acides et plus amers ont été introduits dans leur régime alimentaire. Et sur place, la transition se fera très progressivement. Rodolphe Delors, le directeur du zoo de Beauval.
Ne lâche pas deux gorilles dans la forêt comme ça. Ça va apprendre à se débrouiller. Ces gorilles vont être introduits sur une grande île au départ où ils vont être nourris pendant à peu près 6 mois. Ensuite, il y aura un pont qui va être établi en rondin de bois. Ils vont pouvoir rejoindre des gorilles qui ont déjà été réintroduites par le passé mais qui vivent à état sauvage.
Les deux gorilles vivront alors en pleine nature de façon complètement autonome mais toujours sous la surveillance de soigneurs locaux.
Le reportage signé Claudia Bertram pour Europe 1.
C'était le journal de Céline Kallmann. Merci beaucoup. Céline, dont on a récemment appris qu'elle allait nous quitter au prochain mercato d'été, partir vers d'autres essieux. On a tenté, bien sûr, de la retenir.
C'est moche de nous abandonner.
Mais sa réponse fut sans appel.
Ciao, Linas.
Merci, Céline. On vous embrasse quand même.
Non, pas du tout.
Dans 6h07, au Manval.
Dans un instant, notre historien Fabrice Dalméda nous raconte l'histoire du Comité international olympique depuis l'époque de Pierre de Coubertin. Le CIO doit désigner aujourd'hui la ville hôte des JO d'hiver 2026. Restez avec nous sur Europe 1.
Il est 6h09, Théo Manval.
Un point sur la météo du jour avec vous, Céline Dacosta. La chaleur s'installe.
Oui, c'est vrai. Hein. On le sait, on va connaître cette semaine un épisode caniculaire d'une intensité remarquable avec des valeurs qui vont atteindre et souvent dépasser les 40 degrés dans certaines régions à partir de mercredi. Ça va donc monter en puissance avec aujourd'hui des températures assez raisonnables du coup, hein, puisque la plus élevée sera pour Clermont-Ferrand. 37 degrés déjà tout de même, 31 attendus à Paris, 33 à Strasbourg, 30 à Bordeaux. Les valeurs que je vous donne sont prises à l'abri, donc évidemment au soleil. On rajoute des degrés côté ciel du soleil.
pour toute la moitié est. Ciel nuageux, voilé pour l'ouest avec une perturbation orageuse sur le nord-ouest qui limite la montée des températures sur la Bretagne, le Cotentin. On a déjà des averses en ce moment qui débordent sur les Pays de la Loire. Des orages qui vont revenir ensuite en soirée et qui là seront beaucoup plus forts avec des chutes de grêle et de bonnes rafales de vent.
Attention donc, merci Céline. Eva Rock, est-ce que nos auditeurs sont au taquet?
Mais oui, on leur a posé la question depuis ce matin 5h, s'ils croyaient en l'amitié homme-femme, puisqu'on fête les 49 ans de Glenn Medeiros, le chanteur d'un roman d'amitié. Il chantait avec Elsa à l'époque. Jérémy nous dit, l'amitié peut exister entre un homme et une femme, même si parfois on s'entend et on se comprend tellement bien qu'on se dit que ça pourrait aller plus loin. Donc le message
c'est
est un peu ambigu.
Hein, voilà.
Et alors Sophie, bah justement, elle nous dit, elle ne croit pas en la véritable amitié homme-femme. C'est toujours ambigu, trop de sous-entendus. La preuve, j'ai épousé mon meilleur ami et il est parfait. Merci, vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Théo Manval.
Et Jérôme Lacroix est de retour dans ce studio pour un journal Samba, Carioca, Cocorico, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot.
La Coupe du Monde féminine, l'événement foot est sur Europe 1.
Les titres, Jérôme.
Le chaud, l'effroi, l'euphorie. Les Bleus ont soufflé tous les vents hier soir au Havre. Elles sont en quart de finale de la Coupe du Monde, qualifiées par une victoire 2-1 après prolongation sur les Brésiliennes. Courage, abnégation, mais aussi labeur pour les Françaises. Le quart de finale, c'est vendredi soir. Et ce pourraient bien être les adversaires tant redoutés, les Américaines.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Qui ne saute pas n'est pas français sur un air de samba. Bah oui, drôle d'ironie que ce chant est capté hier soir au pied du stade Océane au Havre, dans ce stade où les Bleus, devant 24 000 spectateurs, viennent d'écarter les Brésiliennes pour filer en quart de finale du Mondial français. Mais ce fut dur, 2-1 après prolongation. On va revenir sur ce scénario suffocant dans la chaleur havraise, mais d'abord les supporters et leurs soupirs de soulagement partout en France, comme ici dans le quartier des Halles à Paris.
Ouais, ça a été très très dur.
J'étais stressée là.
L'essentiel c'est qu'on a gagné.
On reste hyper motivés et hyper mobilisés pour l'équipe de France et on espère qu'elles iront bien au bout.
Elles nous rendent heureux, mais c'était chaud, ouais. C'était une belle soirée.
Et juste avant que les supporters ne quittent le stade du Havre hier soir, il y a eu ce moment que vous entendez. Les Françaises, restées sur la pelouse après le coup de sifflet final, entament avec le public un clapping. Et aux premières loges, côté joueuse, il y en a une. Exténuée mais sourire inamovible, c'est Amandine Henry, la capitaine.
Et pour cause, Amandine Henry s'est muée en Messi hier soir.
Elle a marqué le but tant désiré, celui de la victoire 2-1, son 13e en bleu inscrit à la 106e minute. Reste alors un petit quart d'heure à tenir dans la prolongation et à ce moment, l'attaquante Eugénie Le Sommer se dit que non, les Bleus ne craqueront pas.
Je me dis c'est bon, on a les ressources pour garder ce résultat et le plus important c'était de marquer ce deuxième but pour les enfoncer et ben, on savait qu'elles étaient très fatiguées aussi donc c'est vraiment un but qui nous délivre.
Abnégation bleue, oui, mais une rencontre brouillonne, aucun tir cadré en première période, 4 en seconde dont celui de l'attaquante Valérie Gauvin qui a ouvert le score.
Vous parliez d'abnégation, Jérôme. Une action dans ce match illustre parfaitement ce trait de caractère des Bleus hier soir.
Une minute avant le but victorieux, la puissante défenseuse Gry Djembok a repoussé sur la ligne du but français un ballon frappé par une Brésilienne, laissant à flot un navire français chahuté. Elle aussi a sauvé les Bleus. Chapeau, dit sa coéquipière Gaëtane Tiné.
Elle aurait pu le célébrer, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est un geste aussi décisif qu'un but. Mais je lui ai dit à la fin, c'était extraordinaire d'y croire comme ça jusqu'au bout et de pouvoir sauver ce but.
Et chapeau également à la gardienne Sarah Boisdi qui a sorti plusieurs parades et à la très remuante attaquante Kadi Diani. Avant de parler du quart de finale pour les Françaises, saluons ces Brésiliennes combatives, emmenées notamment par leur capitaine, l'attaquante Marta.
Elle est prête pour jouer 90 et plus 30 minutes.
Elle était très émue au coup de sifflet final, la sextuple meilleure joueuse du monde à 33 ans. C'était peut-être son dernier mondial et face caméra, les yeux rougis, elle a adressé ce message à la relève. Il faut en vouloir plus, s'entraîner plus. Le foot féminin dépend de vous pour survivre. Pensez à ça, savourez, pleurez au début pour sourire à la fin.
Et maintenant, pour les Bleus, Jérôme, c'est l'Amérique.
Très certainement, on va dire. C'est vrai que les Américaines, les surpuissantes championnes du monde, sont archi-favorites de leur 8e de finale ce soir face à l'Espagne, 18h. Si ces Américaines gagnent, eh bien ce sera the big match pour les Françaises. Le quart de finale, vendredi 21h au Parc des Princes, France-États-Unis.
Merci beaucoup, c'était le Journal du Mondial, signé Jérôme Lacroix. Et il y a des jours où l'histoire rejoint le sport, des jours où Jérôme Lacroix passe un petit peu le relais à Fabrice Dalméda, à 7h06 sur Europe 1. Et ce jour est un de ces jours.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
c'est historique.
Bonjour Fabrice Dalmeida.
Bonjour.
Je dis ça parce que vous nous parlez aujourd'hui du CIO, le Comité International Olympique, dont s'ouvre à Lausanne la 134e session. On va y décider à cette session de l'attribution des JO d'hiver 2026 entre Stockholm et Milan. Fabrice, expliquez-nous déjà d'où vient le pouvoir de cette instance.
Ben en fait, tout remonte à ses débuts, voici 125 ans. Pierre de Coubertin, un moustachu de 31 ans, avec des cheveux coiffés avec une raie sur le côté gauche, je sais, c'est un
ça
détail.
Ça se faisait encore à l'époque.
Mais c'est lui qui réunit à Paris du 16 au 23 juin 1894 le premier congrès olympique. 2000 personnes de 13 nations différentes se retrouvent dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour représenter 79 sports. Après donc une semaine de discussion, Coubertin prononce le discours de clôture. Les Jeux Olympiques seront organisés tous les 4 ans. Les premiers se tiendront en 1896 à Athènes, les seconds à Paris en 1900, mais surtout est fondé le gouvernement de l'olympisme, le Comité International Olympique, pour suivre l'organisation des Jeux et s'assurer de l'amateurisme des participants.
Et oui, parce qu'au départ, les sportifs olympiques devaient être des amateurs. Depuis, Fabrice, l'instance du CIO est vraiment devenue très puissante.
Bah oui, le CIO est devenu une très très puissante organisation non gouvernementale. Elle jouit d'un statut presque diplomatique. Depuis 1915, après la Première Guerre mondiale, il a quitté Paris pour la Suisse, à Lausanne. La Confédération helvétique lui a donné un statut spécifique pour assurer son fonctionnement. Depuis les origines, la charte olympique, sa constitution, insiste sur l'indépendance de ses membres face au gouvernement et aux États. Indépendance, évidemment, vous le savez, contestée.
Et oui, parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a eu plusieurs scandales.
Ben oui, accusations de corruption qui ont plané, notamment lors des choix de villes comme Tokyo ou Rio. Il a même été prouvé qu'un de ses anciens présidents, le catalan Juan Antonio Samaranch, avait reçu des fugits de chasse et couvert des versements d'argent à des membres pour l'attribution des JO de Salt Lake City en 2002. Alors on verra si les mesures prises pour améliorer la transparence auront un effet sur cette 134e session du comité, car on l'a compris, au fil du temps, une forme d'avidité a éclipsé l'idéal de fraternité sportive, posée voici 125 ans.
Merci beaucoup Fabrice Dalmeida et à demain pour un autre décryptage de l'actualité sous le prisme de l'histoire.
Europe 1.
Il est 6h17, Théo Manval.
Debout les copains se poursuit, votre 5-7 qui peut être dans la lune tout en étant dans l'actu. Dans un instant, je reçois Alain Sirou. Le patron de la NASA veut retourner sur la lune d'ici 4 ans, mais est-ce vraiment possible? On voit ça dans 2 minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité avec vous Théo Manval.
Le mondial féminin et les Bleus ont obtenu leur billet en quart de finale hier soir en battant le Brésil 2-1. Il a fallu aller au bout de la prolongation. Prochain adversaire, les États-Unis ou l'Espagne. La France s'apprête à vivre un épisode de très forte chaleur. L'alerte canicule niveau orange a été déclenchée pour Paris et ses départements limitrophes ainsi qu'en Seine-et-Marne. On attend jusqu'à 40 degrés. Et puis audience capitale pour les proches de Vincent Lambert. La Cour de cassation examine la dernière décision de justice, celle de la reprise des traitements. Le procureur général a déjà fait savoir qu'il demanderait le cassement du jugement. La décision devrait être rendue dans les 15 jours.
Europe 1, 5h, 7h, Théo Manval.
Voilà pour les titres de ce lundi 24 juin, mais l'actualité ce matin nous amène aussi à prendre un peu de hauteur, car la NASA fait part de ses ambitions de retourner sur la Lune d'ici 2024. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Théo, bonjour
à tous. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre consultant sur les questions spatiales, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. En 2024, nous aurons un homme et une femme sur la Lune. En 2028, nous y serons de façon durable, a donc déclaré le patron de la NASA au Salon du Bourget la semaine dernière. Il se trouve que vous l'avez interviewé, ce monsieur. Vous y croyez, vous, à ce retour de l'homme sur la Lune en 2024? C'est crédible?
Ben, je lui ai posé la question les yeux dans les yeux. Alors 2024, c'est sérieux? Et dans les yeux, il m'a répondu oui. Alors, je vous avoue que je n'y crois pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que rien n'est prêt. Et que ce n'est pas parce que les Américains sont allés sur la Lune assez rapidement dans les années 60 qu'aujourd'hui, ça peut se faire de la même façon. Donc on a à la NASA à répondre à une injonction.
De la Maison-Blanche, de Donald Trump.
De Donald Trump qui dit à la fin 2024, nous irons sur la Lune et je le demande à la NASA, tout de suite. Et puis s'ils ne sont pas prêts, ça va barder et il va y avoir des entreprises privées qui vont venir au secours. La réalité de cela, c'est que la NASA avait bien décidé d'envoyer des hommes sur la Lune, mais sur un programme plutôt aux alentours de 2028-2030. Pour aller sur la Lune, il faut un programme avec des outils. Il faut une fusée. Pour l'instant, on ne l'a pas. Elle s'appelle la SLS. Elle est en cours de construction depuis longtemps. Elle a déjà coûté plus de 10 milliards de dollars, mais elle n'est pas prête. Elle devait voler pour ses premiers essais en 2020. C'est même pas sûr que ça fonctionne. Donc pour l'instant, on n'a pas de fusée. Ensuite, pour aller sur la Lune, pour se poser sur la Lune, il faut un engin qu'on appelait autrefois avec Apollo le LEM, c'est-à-dire le module lunaire.
Un module d'alunissage.
Il n'existe pas.
Et il faut 20 à 30 millions de dollars en plus, a dit le patron de la NASA, pour arriver à...
À peu près une trentaine de milliards de dollars, à minima. Mais vous savez, on n'est plus dans les années 60, c'est pas parce que, encore une fois, la technologie de l'époque ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, Alain, on a l'impression qu'en voyant les SpaceX, toutes les sociétés privées, on se dit, bah voilà, ils arrivent même à faire revenir des modules sur Terre. Pourquoi est-ce que dans 4 ans, on n'arriverait pas à aller sur la Lune? C'est vraiment impossible.
Parce qu'il faut envoyer des hommes et surtout, il faut les ramener vivants. C'est bien le problème des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accepte pas l'idée d'envoyer un équipage en disant, oh ben, il y aura une chance sur deux qu'ils ne reviennent pas. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Et puis ensuite, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de se poser, de descendre, mais le programme consiste à dire que c'est une étape pour Mars, donc s'y installer une base lunaire de façon permanente, y vivre, en fait installer une infrastructure. Et une infrastructure, c'est beaucoup d'éléments qui doivent être testés et qui doivent fonctionner à 100%. Encore une fois, on est dans le vol humain.
Et puis et il faut les emmener, effectivement, pas emmener juste une équipe de quelques hommes. J'allais vous demander justement, 50 ans après, pourquoi est-ce qu'il y a ce regain d'intérêt? On sait que les Chinois sont allés se poser sur la face cachée de la Lune au mois de janvier. Pourquoi est-ce qu'il y a ce regain d'intérêt maintenant? À quoi ça nous sert d'aller encore aujourd'hui sur la Lune, surtout si ça coûte autant d'argent?
Parce que c'est la destination la plus proche. C'est celle qui permet de faire la démonstration, et on le voit bien avec, je dirais, le programme chinois, de ce qu'une nation a la capacité à envoyer des hommes, de les ramener vivants et d'entretenir toute une structure qui permet de faire ça. Les Chinois, finalement, ne se sont pas lancés dans une compétition. Il n'y a pas de course à la Lune. C'est Donald Trump qui veut se trouver des ennemis. Mais là, pour la Chine, l'objectif est très clair. Il s'agit d'y aller tranquillement, de poser peut-être en 2030 des taïkonautes à la surface de la Lune pour montrer au peuple chinois que c'est une grande nation et qu'ils sont capables de le faire.
C'est ça. Est-ce que c'est une bataille symbolique? Est-ce que c'est une bataille d'image? Ou est-ce qu'on a encore des choses à apprendre de la Lune, du sol lunaire, aujourd'hui en 2020, en 2024?
Les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est à la fois une bataille d'image parce que la Lune, c'est quand même pas si facile que ça à décrocher. Et je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, un programme tout juste automatique sans homme, qui était un programme par une société privée israélienne, s'est crashé à la surface de la Lune. Donc c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a besoin de rêve.
C'est ça, Donald Trump, il vend du rêve aussi à ses concitoyens en recréant cette bataille de la seule frontière qui existe, la frontière spatiale.
Alors, pour le compte, on peut lui rendre hommage en sens que c'est un rêve crédible. C'est-à-dire que
c'est crédible, mais pas en 4 ans.
Voilà, ses prédécesseurs, les Bush, Clinton, etc., ont vendu Mars pendant des décennies. Ils nous ont dit, les Américains sur Mars, c'est pour bientôt. Ils ont dépensé énormément d'argent en communication, mais il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de fusée, il n'y a rien du tout. Et aujourd'hui, la NASA, très discrètement, a accepté de dire que Mars n'était pas crédible. Sans qu'on développe de nouvelles fusées, sans qu'on fasse le passage par la Lune. Et donc, en quelque sorte, c'est, je dirais, un retour sur la Lune obligatoire et nécessaire. Mais avec des nouvelles technologies, avec un nouveau programme, et puis avec une ambition beaucoup plus lointaine, celle-ci, la fin du 21e siècle, peut-être pour la planète rouge.
Peut-être Mars. Justement, vous disiez rester de façon durable sur la Lune. Rester de façon durable, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire habiter sur la Lune. Ça veut dire avoir des habitats lunaires. Ça veut dire regarder la Terre de loin. Ça veut dire, évidemment, s'intéresser peut-être aux ressources, mais aussi à l'histoire de la Lune. On ne connaît pas l'origine de cette Lune. C'est une bibliothèque avec plus de 4 milliards d'années d'histoire qui nous permet de raconter finalement le lien qu'on a avec ce satellite et notre histoire à nous. Vous savez, tous les astronautes qui sont allés sur la Lune disent la même chose. Ils disent, ce qu'on a découvert en y allant, c'est la Terre. Et en 1968, quand les premiers hommes ont tourné autour, s'est développée l'idée du sentiment environnementaliste. L'écologie est née de cette distance qui permet, comme dans un miroir, de voir la belle de loin et de se dire « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est unique, elle est fragile. »
Il faut qu'on la protège.
Il faut qu'on la protège et ça, je dirais que ça va être sans doute le second choc du retour vers la Lune.
Merci beaucoup Alain Sirou pour cette interview passionnante. Vous allez revenir en tout cas avec nous tout l'été sur ce cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune sur Europe 1. Et puis je rappelle aussi votre livre paru au Seuil, Les Hommes de la Lune, co-écrit avec Jean-Philippe Ballas. Plein de témoignages, Hubert Reeves, Ken Follett, Ryan Gosling, Ron Howard, leurs souvenirs de ce jour-là. On vous le recommande vivement sur Europe 1. Merci.
Merci à vous.
Alain, et à bientôt donc.
Europe 1, il est 6h26, Théo Manval.
Dans un instant, le journal complet de David Doucan et la météo de Céline Dacosta. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Théo Manval.
Vous écoutez Debout les copains, merci de vous réveiller avec nous. Après le journal de David Doucan, on retrouvera nos trois fantastiques, Eva Roch, Axel de Tarlet et Michael Darmon. Le nouveau retard de l'EPR de Flamanville met la filière nucléaire française dans une impasse, nous dira Michael. Carrefour quitte la Chine, ce sera la chronique d'Axel de Tarlet. Enfin, Eva Roch nous conseillera deux comédies françaises à la télé ce soir. Je ne vous en dis pas plus.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Théo Manval.
Le journal de 6h30 vous est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Trois titres à la une.
Attention aux coups de chaud, les températures vont grimper au-delà de 35 degrés, les fortes chaleurs ne sont pas une raison suffisante pour ne pas aller au travail, mais les employeurs ont tout de même des obligations, explications dans un instant. Jean-Luc Mélenchon cherche un nouveau souffle, réplique virulente aux critiques internes, réaffirmation de son autorité, mais aussi esquisse d'un mea culpa. Le leader de la France insoumise a tenu discours hier devant ses militants. Et puis elles iront donc en quart de finale. Les Bleus ont battu le Brésil hier soir au Havre, 2-1.
Europe 1.
Il fait trop chaud pour travailler. Voilà pour le slogan célèbre d'une marque de jus de fruits. Mais qu'en est-il dans la réalité? La canicule est-elle une raison suffisante pour ne pas embaucher? Que prévoit la loi? Romain Oquet.
Une seule obligation concrète dans le Code du travail, avoir accès à de l'eau potable fraîche. Rien de plus précis, aucun seuil de température maximale. L'employeur est simplement tenu d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Pour cela, il peut suivre les préconisations d'organismes dédiés. Diane Reboursier est avocate spécialiste du droit du travail.
On peut imaginer le télétravail. Certaines entreprises, par exemple, aussi prévoient des temps de pause plus longs ou encore adapter les horaires de travail pour éviter les heures de forte chaleur. Beaucoup d'organismes ont fait des études, il faut être vigilant à compter de 30 degrés et qu'à compter de 33 degrés à l'ombre, vous avez des risques pour la santé et la sécurité des salariés.
Et si l'employeur ne joue pas le jeu, le salarié peut exercer son droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Une notion floue dont il faut se méfier, explique Franck Setruc de la CFE-CGC.
C'est la solution extrême, ça relève quasiment de la survie, avec toutefois le risque, si l'employeur estimait que c'était un usage abusif du droit de retrait, qu'il licencie la personne pour abandon de poste.
Mieux vaut donc privilégier le dialogue avec l'employeur en alertant par exemple vos représentants du personnel.
Roman, ok, pour Europe 1, soyez vigilants, dès aujourd'hui, alerte canicule orange pour Paris et sa banlieue. Il fera chaud partout en France, sauf en Bretagne, pensez à bien vous hydrater, surtout bien faire boire les enfants et prendre des nouvelles des personnes âgées dans votre entourage. La France insoumise se réunissait hier en assemblée représentative à Paris, une sorte de parlement du mouvement devant lequel Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé. Le tribun a répliqué avec virulence aux critiques internes, notamment celle de Clémentine Autain. Objectif, réaffirmer son autorité après la débâcle des élections européennes. On l'écoute.
Quel est mon rôle, m'a-t-on dit, dans ce mouvement? Mon rôle, il est consubstantiel au mouvement. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai été le candidat. Pardon, je m'excuse. Et je suis fier d'être votre tribun. Parmi d'autres. On vous a proposé l'organigramme. Il y a toute une équipe qui arrive. Beaucoup sont jeunes, et même très jeunes. Ils vont avoir besoin de toute la sagesse de ceux qui ont accumulé du savoir dans la lutte. D'abord de la mienne, et puis d'autres aussi. La page est tournée. Ce n'est plus moi qui ouvrirai toutes les réunions, ni moi qui les terminerai toutes. J'en ferai un certain nombre. Mais pas tout.
Extrait choisi par Virginie Riva pour Europe 1. Jean-Luc Mélenchon parlait donc d'un nouvel organigramme. Noté qu'Adrien Quatennens devient coordinateur du mouvement. Cela fait de fait du député de 29 ans, le numéro 2 de la France insoumise. Audience cruciale de la Cour de cassation aujourd'hui pour l'avenir de Vincent Lambert. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire se réunit aujourd'hui à partir de 14h pour examiner la décision de la Cour d'appel de Paris qui, vous vous en souvenez sûrement, le 20 mai dernier, avait ordonné la reprise des traitements. La Cour de cassation donnera sa décision dans les prochains jours. Si elle casse le jugement, alors les médecins du CHU de Reims pourront à nouveau entamer l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation qui maintiennent en vie Vincent Lambert dans un état végétatif irréversible depuis 10 ans. En 2007, le crash d'un avion de la compagnie thaïlandaise One2Go avait causé la mort de 90 personnes, dont 9 Français à Phuket. Le procès de ce drame commence aujourd'hui à Paris. Le dirigeant de l'époque, un Thaïlandais, est jugé pour homicide involontaire et blessures involontaires, mais il ne se présentera pas au tribunal. Parlons maintenant du climat social au sein de la SNCF. Les syndicats dénoncent un malaise interne et une souffrance au travail qui découle, selon eux, de la mise en œuvre de la réforme ferroviaire. La réponse de la direction est installée. Aujourd'hui, il s'agit d'un observatoire de la transformation. Explication, Aurélien Fleureau.
Ce sera le troisième observatoire en 15 ans. Les deux précédents n'ont rien apporté. Voilà comment a été accueillie l'annonce de la direction par une partie des syndicats. Cet observatoire sera composé de 3 personnes, dont une ancienne DRH de la SNCF, et Bruno Mettling, l'ancien directeur des ressources humaines d'Orange, qui avait été chargé d'apaiser le climat social après la vague de suicides. Et ce sont des méthodes managériales qualifiées de similaires à celles de France Télécom, ainsi que des rapports de médecins du travail édifiants que dénonce Bruno Poncet, secrétaire fédéral Sudrail.
Pour nous, il y a une vraie urgence sanitaire, et la réforme ferroviaire qui est en train de se mettre en place depuis un an accentue et accélère ce processus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a un vrai problème avec la direction qui botte en touche depuis des années et qui met la poussière sous le tapis. Malheureusement, elle se prend les pieds dedans. Et là, faire un observatoire, on n'est pas là pour observer, nous. Nous, on n'est pas là pour compter les morts.
Pour la direction de la SNCF, cet observatoire aura pour objectif de vérifier en permanence que la question de l'accompagnement des salariés est centrale. Les managers recevront la consigne d'écouter les cheminots, notamment les plus fragiles, là où les réorganisations se succèdent.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.
À suivre dans ce journal, c'est un revers pour l'homme fort de Turquie. Le candidat d'opposition à Recep Tayyip Erdogan a été élu hier maire d'Istanbul. Nous serons sur place dans un instant.
Europe 1.
Il est 6h37, Théo Manval.
La suite du journal de David Doucan est donc direction Istanbul en Turquie.
Oui, la capitale économique du pays a basculé dans l'opposition à Recep Tayyip Erdogan avec la victoire d'Ekrem İmamoğlu, élu maire d'Istanbul avec 54% des voix. Avec nous, le correspondant d'Europe 1 en Turquie, Guillaume Perrier. C'est un revers pour Erdogan, Guillaume, mais le pouvoir ne conteste pas.
Oui, la victoire est très nette et elle a été fêtée une bonne partie de la nuit dans de nombreux quartiers de la ville. Le candidat du parti au pouvoir a très tôt reconnu sa défaite. Il a souhaité bonne chance au nouveau maire. Même le président Erdogan a félicité Ekrem İmamoğlu. Il s'est contenté d'un tweet, mais sa réaction était très attendue pour que le résultat soit totalement validé. Car c'est bien lui le grand perdant de cette élection à portée nationale. Recep Tayyip Erdogan apparaît affaibli après 17 ans de pouvoir. Il va maintenant devoir contenir la vague d'espoir qu'a soulevé İmamoğlu, tenter de lui barrer la route avec toute son expérience. Pour cela, il pourrait décider par décret de réduire le rôle du maire, bloquer ses décisions, d'autant que le parti au pouvoir garde la main sur le conseil municipal. Plus risqué, il pourrait aussi pousser à la destitution d'İmamoğlu, comme il a menacé de le faire pendant la campagne. Un procès, une procédure administrative, il l'a déjà réalisé à de nombreuses reprises depuis 2014, notamment dans des villes kurdes. Mais avec la perte d'Istanbul, la dynamique n'est plus de son côté.
Guillaume Perrier, le correspondant d'Europe 1 en Turquie. Merci Guillaume. La situation entre l'Iran et les États-Unis ne s'apaise pas dans un contexte d'incidents et d'invectives. Washington s'apprête à annoncer aujourd'hui de nouvelles sanctions majeures contre Téhéran. Et puis, nous l'avons appris il y a quelques instants, l'Indonésie a été frappée par un violent séisme, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre s'est produit à 208 km de profondeur au sud de l'île d'Ambon. Il était un peu avant 3 heures du matin, heure française. Les Françaises sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Elles ont battu le Brésil hier 2-1. Le match se déroulait au Havre, mais à Paris, il y a une fan zone dans laquelle Europe 1 a croisé un couple franco-brésilien. Et sachez-le, on peut s'aimer, oui, et quand même se chambrer. Reportage Jean-Gabriel Bourgeois.
Chacun a le drapeau de son pays dessiné sur la joue. Dans la fan zone, Greg le français et Dayani, sa compagne brésilienne, partagent la passion du foot jusqu'au premier but refusé pour la France grâce à la vidéo.
Moi je pense qu'il y a but.
Ça c'est n'importe quoi.
Ça va mieux.
Allez les Brésil.
Mais après la mi-temps, la France marque.
On est détendu là, détendu. Enfin pas tout le monde. Hein.
Je pense qu'aujourd'hui, tu vas dormir dans le canapé. Hein.
Une semaine dans le canapé.
Non.
L'égalisation brésilienne remet tout le monde d'accord, puis Amandine Henry qualifie la France.
Très content, déçu pour nos amis brésiliens, brésiliennes. Il fallait un vainqueur ce soir, c'est la France.
Nous allons supporter France maintenant.
Merci, ça nous fait plaisir.
Le couple reviendra dans la fan zone vendredi prochain pour le quart de finale avec cette fois le même drapeau tricolore dessiné sur la joue.
Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Le quart de finale aura lieu vendredi à Paris au Parc des Princes. Les Françaises affronteront soit les États-Unis, soit l'Espagne. Et si vous le voulez bien, mon cher Théo, une petite histoire insolite pour conclure ce journal. Une femme, une Canadienne, avait fait un vol au début juin entre Québec et Toronto. Elle s'est endormie peu après le décollage.
Ça arrive.
Ça peut arriver. Et quand elle s'est réveillée, l'avion était entièrement noir et elle était toute seule dans l'appareil. L'avion avait même été remorqué à l'extérieur de l'aéroport.
Mais comment c'est possible ?
Elle a été un petit peu traumatisée, surtout qu'elle a cherché à téléphoner à un ami pour être secourue, mais il n'avait plus de batterie, elle n'a pas réussi à recharger son téléphone parce que l'avion était éteint, plus aucune électricité. Bon, ça a été un petit peu traumatisant pour elle. La compagnie Air Canada s'est excusée de cet incident.
Platement. Merci, voilà. C'était le journal de David Doucan. Merci beaucoup, David.
C'est improbable.
Un coup d'œil à la couleur du ciel. À 6h41 et à la montée du mercure sur nos thermomètres, Céline Dacosta, ça se confirme.
Oui, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer à grimper jusqu'à la fin de la semaine. On amorcera une baisse des températures à partir de dimanche seulement. En attendant, aujourd'hui, la chaleur sera raisonnable puisque les valeurs sont comprises entre 26 et 33 degrés. Un petit peu plus dans le centre, 36 degrés à Bourges ou dans le centre-est avec 37. Ce sera la maximale pour Clermont-Ferrand cet après-midi. Le nord-ouest va échapper pour l'instant à ces fortes chaleurs avec une perturbation orageuse avec de fortes averses dès ce matin sur la Bretagne, le Cotentin qui déborde un petit peu sur les Pays de la Loire. Une deuxième vague d'orages sera présente et beaucoup plus violente dans la soirée et la nuit prochaine, toujours sur le même secteur. Pour l'instant, 5 départements sont en vigilance orange canicule, Paris et sa petite couronne. Petite info également, cette montée des températures, c'est aussi la possibilité d'avoir des températures positives au sommet du Mont Blanc. Donc on craint un petit peu pour les neiges éternelles.
Attention. Ouais. Merci Céline. Eva, nos auditeurs.
Eh bien, ils sont très nombreux à avoir répondu depuis ce matin 5h à notre petite question sur un homme, une femme, est-ce qu'une amitié est possible ? Puisqu'on fêtait aujourd'hui les 49 ans de Glenn Medeiros qui chantait un roman d'amitié avec Elsa.
Histoire qu'on l'ait bien en tête pour la journée.
Vous êtes plusieurs à répondre, c'est possible, mais sous plusieurs conditions. Comme Daki nous dit, les deux personnes sont engagées. Il faut que les deux personnes soient engagées dans une relation amoureuse stable. Ce qu'on partage, ce qu'on partage est sans sous-entendu, et l'homme ne doit pas être trop lubrique. Je vous lis le message. C'est vraiment évidemment.
C'est que pour les hommes.
Voilà, que pour les hommes. Et Carlisa nous dit, j'y crois. Il suffit dès le début aussi de fixer le cadre. Si les intentions sont claires, une belle et sincère amitié peut exister. Donc on sent bien que
la réponse est juste copains.
Oui, mais voilà, faut plusieurs conditions. Merci pour toutes vos réponses et puis à demain matin avec une autre question.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui n'a pas peur de mêler info et bonne humeur. Dans un instant, nos trois fantastiques, Eva Rock, Mickaël Darmon et Axel de Tarlé, viennent nous parler politique, économie et médias, ou comment mêler Carrefour, EDF et le cœur des hommes. Vous verrez. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité avec vous, Théo Manval.
Alerte orange à la canicule à Paris et en petite couronne. On s'attend à une vague de température étouffante un peu partout dans le pays. Le mercure dépassera les 35 degrés. Pensez à bien vous hydrater et prenez des nouvelles de vos proches. Audience cruciale de la Cour de cassation aujourd'hui pour l'avenir de Vincent Lambert. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire examinera la décision de la Cour d'appel de Paris qui, le 20 mai dernier, avait ordonné la reprise des traitements. La Cour de cassation donnera sa décision dans les prochains jours. Si elle casse le jugement, alors les médecins du CHU de Reims pourront à nouveau entamer l'arrêt de l'alimentation qui maintient en vie Vincent Lambert dans un état végétatif depuis 10 ans maintenant. En 2007, le crash d'un avion de la compagnie thaïlandaise One2Go avait causé la mort de 90 personnes, dont 9 Français à Phuket. Le procès de ce drame commence aujourd'hui à Paris. Le dirigeant de l'époque, un Thaïlandais, est jugé pour homicide involontaire et blessures involontaires, mais il ne se présentera pas au tribunal. Et puis, elles iront donc en quart de finale. Les Bleus ont battu le Brésil 2-1 hier soir. Les Françaises affronteront vendredi au Parc des Princes soit l'Espagne, soit les États-Unis dans le mondial.
Europe 1, 5h, 7h, Théo Manval.
Et à 6h47, il est l'heure de retrouver nos trois fantastiques. Eva Rock pour la télé, Axel de Tarlé pour l'économie et Mickaël Darmon pour la politique. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Théo.
On commence avec vous, Mickaël. Le nouveau retard de l'EPR de Flamanville met la filière nucléaire dans une impasse. Et vous nous dites, Mickaël Darmon, ne nous y trompons pas, il y aura des conséquences politiques.
Et oui, les soudures au nombre de 8 qu'il faut réparer dans le secteur de la troisième génération, donc à Flamanville, eh bien fissure l'ensemble de la filière nucléaire, mais bien plus encore. Cette décision sans appel de l'autorité de sûreté nucléaire déclenche une série de réactions en chaîne. D'abord, comment faire pour réparer ? Eh bien, le département d'EDF dit du nouveau nucléaire s'apprête à commencer les discussions avec l'ASN. Il va falloir s'accorder sur une méthode de travail pour détruire une partie de l'infrastructure, arriver aux soudures qui sont au cœur du réacteur, puis reconstruire. Puis mais on imagine aisément qu'il ne s'agit pas de construction avec du béton pour des immeubles, comme on peut donc le penser. Les études sur la méthode et la mise en application peuvent prendre jusqu'à 3 ans, selon certains spécialistes du secteur. Mais ce n'est pas tout. Autre conséquence, ce dossier soulève là, c'est celle des compétences industrielles françaises. Actuellement, la France ne possède pas les techniciens de très haute technologie pour réaliser une opération de soudure dans ce réacteur. Donc, il va falloir les trouver ailleurs et ou les former. La Sûreté nucléaire, d'ailleurs, demande que tout soit réparé avant la mise en service du réacteur qui était prévu pour fin 2021. Ce ne sera pas le cas. Et autre conséquence, la production de charbon qui sert à passer donc, les jours d'hiver difficiles dans le nord-ouest du pays va continuer à fonctionner, ce qui n'est pas vraiment dans l'air du temps.
Et c'est là effectivement où on arrive aux impacts politiques de ce casse-tête industriel.
Et oui, ces difficultés mettent à mal et un calendrier et un discours. Emmanuel Macron avait demandé à EDF de bâtir dans ce quinquennat un programme baptisé du nouveau nucléaire qui comprend des investissements étrangers avec comme argument de vente l'EPR. Tout risque d'être donc reporté, de coûter encore plus cher et dans un contexte où la pression est très forte sur maintenant les exécutifs politiques avec la production de l'énergie propre. Les revers de cette filière redonnent des arguments aux partisans donc, de la sortie du nucléaire, ce qui, en termes de coût social pour le prix de l'électricité et pour l'environnement, serait très lourd. Les périodes électorales à venir, bien sûr, ne vont pas également faciliter les choses et peser de tout leur poids sur la gestion du sujet. Donc on le voit, l'onde de choc de l'affaire des soudures de Flamanville ne fait que commencer à se propager dans le secteur de l'énergie nucléaire. L'avenir dira si les acteurs, État, EDF et autorités de sûreté nucléaire décident d'affronter ce dossier ultra sensible, chacun de son côté, ou bien de rester soudés.
On verra ça, effectivement. Merci Michaël Darmon. L'économie, je me tourne vers vous, Axel de Tarlet. Axel, Carrefour se désengage de Chine, on l'a appris ce week-end. C'est une vraie déconvenue pour le champion français de la grande distribution.
Oui, et cette histoire, cette mésaventure est très intéressante parce qu'elle montre ô combien le monde a changé en 20 ans. Je rembobine, nous sommes en 1995, Carrefour est alors un géant français reconnu dans le monde entier. On dit c'est le numéro 2 mondial de la grande distribution derrière l'américain Walmart. Et Carrefour plante son drapeau à l'étranger. C'est l'épopée. Et donc, ils vont avoir ainsi 210 hypermarchés en Chine. Sauf que quand on fait le bilan, 25 ans plus tard, quelle désillusion. Aujourd'hui, Carrefour, c'est à peine 3% du marché chinois. Carrefour perd de l'argent en Chine, 30 millions de pertes encore l'an dernier. Et donc, Carrefour siffle la fin de la partie et renonce. C'est la retraite. Carrefour donc annonce qu'il vend 80% de sa filiale chinoise. Alors, que s'est-il passé? Eh bien d'abord, la Chine, et beaucoup l'ont réalisé, s'est révélée être un marché beaucoup plus difficile que prévu, avec un gouvernement chinois qui protège ses acteurs locaux, qui prend vos technologies quand ça l'intéresse et ensuite protège les siens. Résultat, vous savez que PSA a eu exactement les mêmes déconvenues en Chine. PSA est allé très tôt, Peugeot, en 1980 dans les années en Chine, et aujourd'hui c'est moins de à peine 0,5% du marché chinois. Et puis deuxième chose, une fois qu'on a fait le constat, quel est l'avenir pour les industriels français présents en Chine? Eh bien, l'avenir s'annonce très compliqué parce que les Chinois sont devenus très bons entre-temps. Ils nous ont même dépassés en matière de e-commerce. La Chine est loin devant la France maintenant. On peut faire ses courses par reconnaissance faciale. Et donc, vous voyez, l'heure n'est absolument plus à la conquête. L'heure est au repli stratégique. Et aujourd'hui même, on pourrait même dire à la défense. Aujourd'hui, on craint l'invasion des Chinois, que ce soit dans l'automobile, dans les télécoms, dans l'informatique, dans les trains, dans les TGV. Enfin, on a peur maintenant de l'invasion chinoise dans les TGV. Et donc, vous voyez, c'est pourquoi cette histoire est révélatrice de ce changement du monde en 25 ans. Il ne s'agit plus aujourd'hui de conquérir le monde, mais bien de s'en protéger. La démondialisation est en marche, l'Europe se barricade et Carrefour en est l'illustration. Son modèle consumériste, expansionniste du XXe siècle a vécu. Aujourd'hui, il faut se réinventer et donc on se replie sur ses bases.
La démondialisation est en marche. Merci.
Ça fait beaucoup de chantiers pour Carrefour.
Ça fait
moment.
Beaucoup de chantiers, effectivement.
Voilà. Ouais.
C'est pour ça qu'ils en limitent le nombre.
Ouais.
On termine ce tour de table avec vous, Eva Rock. Pour ceux qui voudraient passer la soirée devant la télé, Eva, quels programmes ont retenu votre attention?
Alors, deux films, deux comédies françaises. France 3 contre M6, c'est à la même heure, c'est à 21h. Sur France 3, vous avez rendez-vous avec 4 hommes.
Il y a les hommes libres, il y a les autres.
Les hommes heureux.
Et j'aime pas quand je rentre chez moi qu'il n'y a personne.
Appelle-toi un chat.
Je préférerais une chatte.
Est-ce que vous avez reconnu?
On a reconnu le cœur des hommes.
Mais oui, le cœur des hommes, Gérard Darmon, Marc Lavoine, Bernard Campan et Jean-Pierre Daroussin. Quatre quadras qui tentent de traverser les turbulences de la vie de couple ensemble. Alors séparation, infidélité, remariage, tous les thèmes sont abordés à travers quatre numéros de comédiens. Alors je reconnais avoir un faible pour le personnage incarné par Jean-Pierre Daroussin, boucher charcutier qui rencontre l'amour avec une femme extravagante mais terriblement attachante.
C'est que j'aimerais dormir avec vous, mais je vais pas être capable de faire l'amour avec vous. Voilà, c'est dire.
Il n'y a pas de mal à ça. Ben oui, pas d'un autre côté, si moi je peux m'endormir à côté de vous sans vous toucher, est-ce que c'est pas un peu vexant? Vous allez supporter?
Jean-Pierre Daroussin, donc un des quatre quadras que vous retrouverez dans Le Cœur des Hommes ce soir, de l'amour aussi sur M6. Alors enfin, je devrais dire plutôt du désamour, où quand un couple décide de divorcer et surtout de ne pas obtenir la garde des trois enfants.
Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer...
On divorce, pardon?
On divorce, mais qui ça? On, bah lui, enfin moi, elle, moi, nous, t'as ton père, ta mère.
C'est une blague.
J'ai réussi.
Je comprends pas. Qui part alors?
Moi.
Et qui veut la garde des enfants?
Lui.
Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider.
Quoi? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa.
T'as dit ça?
Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider.
T'as dit ça?
C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre?
Non, apparemment, c'est toi qui veux la guerre.
Ah, moi, je veux la guerre.
Ah, tu veux la guerre?
Ah, ouais, je veux la guerre.
Donc, tu veux la guerre?
Absolument.
C'est un autre numéro d'acteur donc qui vous attend sur M6, en l'occurrence Marina Foïs face à Laurent Lafitte, une maman et un papa, donc le film s'appelle Maman ou Papa, qui se font la guerre pour ne pas récupérer leur rejeton. Comédie hilarante, politiquement incorrecte quand même, hein, de l'humour provocateur pour aborder, vous savez, toutes ces petites lâchetés de la vie de couple.
Je vois pas de quoi vous parlez.
Voilà, donc c'est à vous de choisir, hein. Soit c'est une comédie romantique, Le Cœur des Hommes sur France 3 à 21h, soit une comédie grinçante et c'est Maman ou Papa et c'est toujours à 21h mais sur M6.
On a le choix, merci beaucoup. Oui, sinon on l'enregistrait, voilà. On met les deux à la suite. Merci beaucoup à vous, mes trois fantastiques, et à demain sur Europe 1.
Europe 1. Il est 6h54, Théo Manval.
Debout les copains touchent à sa fin, mais comme dirait Mathieu Noël, le meilleur est à venir. Dans un instant, Nico Saliagas entre dans la place. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h56, Théo Manval.
Debout les copains, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 5h. Mais pour l'heure, place au maestro Nico Saliagas.
Hey,
bonjour mon cher Nico.
Ça va mon ami, ça vous fait quoi de faire justement salut les copains?
C'est tôt. Mais c'est
oui,
bien,
mais c'est,
non,
bien.
C'est toujours
c'est
bien.
Tôt,
on
mais
est
c'est
très,
bon.
On est très bien entouré.
Manière personne dort avec la chaleur, vous êtes d'accord?
Et c'est avec le mondial de foot.
Ouais, exactement. Ouais,
voilà, exactement. On s'endort avec des buts, on se réveille avec... Non, ne dites
non.
pas
non, oh, non, j'ai non, rien non, dit, non, rien non, dit, je n'ai absolument rien dit. On l'a même pas pensé.
Bonne journée,
bonne journée.
Céline Dacosta, il va faire chaud, ça va être un peu le thème de la matinale ce matin.
Bonjour, Nico.
Il dit quoi, notre ami Laurent Cabrol?
Bah, il dit qu'il va faire chaud.
Bon, ben, bonne journée, on s'arrête là, on va rentrer chez nous.
Non, mais attendez, en même temps, faut pas trop dramatiser, il fait faire chaud mercredi et jeudi surtout. Aujourd'hui, certes, nous atteindrons les 37 degrés à Montluçon, les 36 à Bourges et Clermont-Ferrand, 34 à Lyon et Paris. Là, ce sont des chaleurs assez intense, 33 à Dijon, 32 à Toulouse, 28 à Nice, 24 à Biarritz et 21 à Brest. Mais pour ne rien vous cacher, j'ai plutôt moi l'inquiétude de la fin de semaine que l'inquiétude de la semaine. La semaine, on sait ce qui nous attend, mais la fin de semaine, ce qu'on a envie, c'est de savoir si ça va s'arrêter. Ça, parce que ça, c'est l'essentiel. Pour l'instant, tout est dans le vert, c'est-à-dire que le changement de temps doit intervenir samedi et dimanche. Donc nous aurons vécu, si on vit cette chaleur intense, nous aurons vécu 3 jours très pénibles, très fatigants, très éprouvants, mais on le sait, et après on retrouvera des valeurs normales. Si c'est ça, bon, allez, ce sera un mauvais moment à oublier. Mais pour le reste, on est encore dans cette inquiétude de savoir, et si seulement ça durait.
Si ça s'installe ou pas, en
tout cas. Moi, je ne crois pas. Voilà, je vais faire fermement la parenthèse, et je ne suis pas le seul, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prévisionnistes, des météos officiels qui pensent comme ça. En ce moment, je peux vous dire qu'il pleut, à Saint-Nazaire, à Nantes, à Vannes, Lorient, Rennes, Laval, Île-de-Dieu, à Dinard, des pluies qui viennent de l'Atlantique. Et ces pluies, bon, bah, vont malheureusement donner des orages en fin de journée, mais ce sont des pluies qui rafraîchissent l'atmosphère, au point que dans ces contrées, il fait entre 21 et 22-23 degrés. Vous voyez, c'est pas énorme. En ce qui concerne la chaleur, eh bien, ce sera pour tout le reste de la France, le Nord, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, le Limousin, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, sont des chaleurs qui sont pour l'instant encore presque dans les normes d'un gros coup de chaud, mais à partir de mercredi, ce sera vraiment là une température caniculaire intense. Alors, le soleil et la chaleur aussi sur les régions de l'Est, etc. On en reparlera tout au long de la matinale. Moi, ce que je voudrais dire à nos amis, c'est faut pas dramatiser. C'est-à-dire que depuis trois jours, on ne parle que de cette canicule. Oui. On la vivra, on la supportera,
on passera aux choses. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, je recevrai à 7h45 Emmanuel Beaucry, qui est un ingénieur prévisionniste chez Météo France. Un de vos collègues, on en parlera aussi avec lui tout à l'heure. Soyez attentifs, soyez dans le coin. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Oui, le prochain Point Météo avec vous, ce sera juste avant le journal de 7h30.
Europe 1, 5h, 7h, Théo Manval.